Le Salon AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France en partenariat avec ACT Commodities sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et bonjour, bienvenue sur nos antennes Radio Immo, Radio Territoria, toujours en direct de ce salon, salon de l'AMIF, l'Association des maires d'Île-de-France. On vous a fait vivre ces deux jours, là c'est la fin du salon. Je reçois ma dernière élue et je suis contente parce qu'on va parler d'un thème qui me touche particulièrement, enfin, voilà, que j'aime aborder. Aline de Marcillac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la maire de Ville d'Avray, donc Ville d'Avray c'est dans les Hauts-de-Seine, à côté de Paris. Alors on va parler avec vous de la santé. Je précise quand même en introduction que votre commune est label or de l'ESF, donc l'établissement français du sang, au titre du don du sang. Donc ça regroupe, vous allez m'expliquer, mais la mise à disposition des locaux, c'est ça, la communication, le nombre de personnes qui viennent donner leur sang. Et ça englobe pas mal de critères, hein, c'est ça?
Ce sont en effet des critères...
Alors, rapprochez juste votre micro.
Des critères qualitatifs, ouais. Effectivement, de mise à disposition par les services de la ville, de locaux, de matériel, la communication auprès de la population, qui permet effectivement de faciliter le don du sang. Je dirais que l'hommage doit d'abord le rendre à la population qui est généreuse de son sang, puisque sans les habitants qui ont conscience de l'importance de donner leur sang pour la santé, ouais, générale et pour aider les autres, eh bien, on n'aurait, ouais, pas de don du sang. Donc merci à eux et puis effectivement merci aussi aux équipes de la ville qui se mobilisent pour vraiment faciliter l'accueil de l'établissement français du sang, et les dons se passent toujours très très bien dans une atmosphère tout à fait joyeuse et confortable.
Après, j'imagine que vous faites aussi beaucoup de communication. Ces personnes, faut leur expliquer aussi. Faut déjà leur rappeler, parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier que c'est bien de donner son sang. Mais j'imagine qu'il y a toute une communication aussi.
Oui, il y a une communication, ouais, institutionnelle par les réseaux de la ville, par le magazine. Mais je dirais par des affichages, mais ouais, c'est quelque chose qui est rentré vraiment dans les mœurs et dans, ouais, la routine, en fait.
Vous êtes également ville ambassadrice du don d'organes. Alors là, on touche à un sujet un peu plus touchy, voilà, parce que c'est un autre débat. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ville ambassadrice du don d'organes?
Alors le don d'organes et le don de moelle sont des choses très peu connues et pourtant extrêmement utiles. Et toute l'idée est de sensibiliser les habitants, la population, au fait que déjà on peut tous être donneurs et que le fait qu'on soit donneur peut vraiment contribuer à sauver un grand nombre de vies. Et donc, toute l'idée de cette démarche publique, qui est que la ville soit ambassadrice du don d'organes, c'est en fait de créer des conversations à l'intérieur des familles, de créer des conversations entre proches sur un sujet qui peut être perçu comme tabou et qui, en fait, peut aussi être abordé humainement, simplement. Souvent, les refus de dons, tout le monde est... De fait, si on n'a pas déclaré qu'on refusait de donner, on est donneur. Mais le travail, mais quand il y a quand on est en situation de pouvoir prélever des organes, puisqu'il y a une mort cérébrale avec des organes en bon état, souvent ça peut être très difficile avec les familles qui ne savent pas quelle aurait été la volonté de la personne. Et donc à partir du moment où ces conversations ont déjà pu avoir lieu, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile. Et donc, le fait d'être ambassadrice du don d'organes, c'est aussi une façon de donner la parole à des donneurs, donner la parole à parfois des donneurs vivants, parce que parfois les donneurs sont vivants pour certains organes, mais comme les reins, mais aussi à des familles de donneurs. Et vraiment, je rends hommage à des familles de donneurs. Et je dois dire qu'il se trouve qu'autour de moi, dans mon conseil municipal, j'ai une mère de donneuse qui a été extrêmement active et courageuse dans la promotion du don d'organes. Donc je la salue, il s'agit de Florence Boutet. Mais aussi, il y a beaucoup de receveurs pour qui, oui, c'est tabou, qui n'osent pas dire qu'ils sont porteurs d'un organe greffé et qui ont peur du regard des autres.
Oui, pourtant, donc, c'est quelque chose d'assez lourd, hein, à porter, voilà, au quotidien, parce que ça engendre pas mal de choses, de contraintes au quotidien pour la personne qui est greffée.
Absolument, c'est des contraintes, mais surtout, ces contraintes parfois se gèrent, mais moi j'ai rencontré des personnes greffées qui ont peur du jugement, de, par exemple dans le monde du travail, qui ont D'accord. peur d'être considérées comme moins capables.
Ou, ah oui.
Si elles ont, par exemple, c'était pendant le Covid, des réserves sur le fait de se déplacer au bureau, elles n'osent pas dire qu'elles sont plus fragiles, qu'elles sont plus immunodéprimées, elles ont ouais. peur que, d'être stigmatisées. Et donc, à partir du moment où ce sujet est vraiment ouvert et qu'on peut en parler beaucoup plus librement, eh ben, on est peut-être juste plus humains et plus compréhensifs les uns avec les autres. Voilà. Et effectivement, tout ce qui touche à la mort fait peur. Mais à partir du moment où on en a parlé, ben, c'est beaucoup plus facile. Et donc, une ville ambassadrice du don d'organes, c'est une ville qui fait la promotion de ces conversations sur le don d'organes.
Pourquoi la santé est-elle devenue un sujet aussi important pour une commune comme la vôtre ? Alors que c'est pas une compétence communale, hein,
Alors, en effet, la santé n'est pas une compétence communale, mais ce qui est une compétence communale, c'est de répondre à tous les gens qui frappent à la porte du maire. Et pour la petite anecdote, il y a, à Ville-d'Avray, il y a 60 ans, le maire était médecin. Donc, on frappait à la porte du maire pour une appendicite ou pour un accouchement.
Donc, c'est un peu dans l'ADN de la commune.
Ben, entre-temps, naturellement, ça s'est un peu perdu parce que ouais. c'est pas du tout une compétence explicite. Je dis juste ça, c'est juste pour illustrer un changement de société. Et qu'aujourd'hui, ben, en fait, la désertification médicale, les problèmes de santé mentale, le Covid, ouais. Ont donné lieu à de nombreuses conversations entre les habitants, les médecins et le maire. Exemple, pendant le Covid, ce sont les médecins qui frappaient à la porte du maire, enfin, qui disaient, mais honnêtement, on n'a pas de masque. Ouais. FFP2, il se trouve que nous, on en avait des vieux en stock. Ils ont fait l'affaire. Ça a créé des conversations entre le maire et les médecins. Les habitants, les mêmes médecins disent, impossible de trouver un remplaçant. Les habitants disent, impossible de trouver telle ou telle consultation chez un généraliste. On n'a plus de médecins traitants. Ils prennent plus, ils ont plus de 2000 patients. Et analyse des besoins sociaux, on se rend compte que d'ici 3 ans, la plupart des médecins généralistes de la ville auront pris leur retraite. Il n'en restera plus qu'un. Ce seul médecin encore présent nous a dit, si je suis seul médecin, je pars.
Ah oui.
Donc, urgence.
Ah oui.
Donc, il était indispensable qu'on se saisisse du sujet de la médecine traitante. Mmh. Et en fait, donc, la question de savoir si c'est une compétence du maire ou pas une compétence du maire n'en était pas une. Ouais. La question, c'était que c'était un besoin de la ville et
des habitants
et qu'il fallait qu'on s'en empare.
Mmh. Alors, concrètement, comment la municipalité a agi ? Vous parlez de cette désertification médicale. Comment, justement, vous avez agi concrètement ? Qu'est-ce que vous avez fait ?
D'abord, on a objectivé. Donc, on a fait faire une analyse il y a une première analyse des besoins sociaux, puis ensuite une étude, une analyse par l'Union régionale des professionnels de santé, qui a objectivé d'une part la situation médicale, le diagnostic médical des professionnels de santé avec leur âge de départ à la retraite, leur nombre de patients, etc. Par rapport à la démographie de la ville. Et on s'est rendu compte que, eh bien, d'ici 3-4 ans, en effet, on serait vraiment en désert médical. Aujourd'hui, en plus, on a déjà le classement ZIP, qui est le premier niveau de désert médical. Donc, il y a eu à la fois le constat, l'expérience des habitants, mais aussi des chiffres. Avec ces chiffres, on est à la fois allé voir l'ARS pour demander de l'aide, pour dire comment est-ce qu'on peut faire pour répondre à cette désertification médicale. On avait identifié un lieu qui pouvait potentiellement être muté en maison de santé, mais bon, qui n'était pas un lieu qui appartenait à la ville, mais dont l'usage allait être amené à évoluer. Et puis, on s'est rendu compte que tout cela ne servait à rien si on ne travaillait pas d'abord avec les professionnels de santé.
Ah oui, donc il faut déjà avoir un lien direct avec les professionnels de santé.
Ouais. Parce que, en fait, au départ, les professionnels de santé étaient réservés. Ils étaient réservés parce que ils ne voyaient pas quelle était la légitimité de la ville à vouloir agir sur leurs conditions d'exercice. Mmh. À juste titre, on n'est pas médecin, voilà. Okay. Mais on leur a montré, alors ce n'est pas nous qui leur avons montré le bilan de l'URPS, ce sont les médecins de l'URPS, donc d'autres
confrères à confrères. Voilà,
qui ont partagé avec eux le...
Et ça change.
Et bien ça change. Ce n'est pas la ville qui s'est adressée à eux. Ouais. La ville a mis à disposition un espace pour que cette présentation puisse avoir lieu. Et puis, il y a eu aussi autre chose qui, je pense, a petit à petit... on a beaucoup travaillé en partenariat. Vous parliez du don du sang, vous parliez de la ville ambassadrice du don d'organes. On a aussi mis en place à Ville d'Avray le sport sur ordonnance.
D'accord.
On a créé un service municipal avec un, entre guillemets, un coach un peu en partie financé par la ville, en partie par les patients, qui accompagne des personnes qui souffrent d'affections longue durée sur des séances de coaching, donc d'activités physiques et sportives, qui peuvent être des alternances ou des compléments à des traitements. Et ça, on l'a fait avec les médecins. Donc, on a commencé à travailler avec eux. Et puis, comme je vous l'ai dit aussi, on a travaillé avec eux pendant le Covid, de plus en plus aussi sur la mise en place des centres de vaccination, etc. Et petit à petit, voilà, je pense qu'on a su, pas à pas, améliorer la relation de confiance en étant perçu non plus comme une autorité autoritaire, mais comme un partenaire.
Mmh. Alors, il reste encore peu de temps parce que justement, ouais. Vous allez recevoir le label de l'EFS, hein, c'est ça, hein, le label OR, tout à l'heure, en direct de l'AMIF, de le salon AMIF. Petite question, donc, une maison de santé va être installée, hein, c'est ça. Elle sera où exactement dans l'ancien bâtiment de la Poste, c'est ça?
C'est exactement ça. Alors, en effet, c'est aussi une évolution des centres-villes. L'activité postale, elle est considérablement réduite. Hein, ouais. Le courrier disparaît. Et la Poste qui était installée là depuis 1971 va libérer ses locaux.
D'accord. Donc,
ces locaux vont être acquis par un porteur de projet. Donc, ce n'est pas la ville, hein, qui va acquérir, ouais. C'est un tiers qui va concevoir cette maison de santé. La question de savoir qui est le tiers qui va acquérir cette maison de santé n'est pas encore tranchée. Il y a plusieurs projets pour l'instant, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on travaille très activement sur l'acquisition de ces murs par un tiers qui pourrait concevoir, aménager cet espace. Et l'idée, c'est vraiment... c'est de la médecine traitante. C'est toute cette médecine de proximité qui permet le maintien à domicile,
oui.
Et qui permet de faire de la médecine générale.
C'est les soins dont on a besoin au quotidien, c'est ça.
Voilà, c'est ça qui désengorge les hôpitaux, c'est qui rassure les gens, c'est ça qui fait du dépistage et de la prévention.
Oui, parce que les gens qui n'ont pas ce centre, par exemple, peuvent aller aux urgences. Du coup, ça crée de l'attente, ça engorge. C'est ça le phénomène d'engorgement qui se passe aux urgences, en fait, en France en ce moment. C'est ça le problème, en fait.
Alors, en tout cas, très concrètement, nos médecins généralistes aujourd'hui, ils nous disent « je ne trouve pas de remplaçant en été ». Je ne trouve pas de remplaçant en été, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant un mois,
il n'y a pas de médecin.
Il n'y a pas de visite à domicile.
Ouais.
Il n'y a pas le coup de fil à son médecin traitant qui fait qu'on démêle rapidement une situation, on l'oriente, etc. Et ça veut dire que ces gens soit sont tout seuls et ne trouvent pas de solution, soit filent aux urgences.
Ouais.
C'est vraiment un maillon indispensable, la médecine de proximité. Et ça, c'est ça qu'on essaye de maintenir à l'échelle locale.
Eh bien, merci beaucoup, Madame la maire. Je vous libère parce que vous êtes attendue pour votre récompense. Encore une fois, merci. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour le dernier plateau en direct du Salon AMIF à la porte de Versailles.
Le Salon AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France en partenariat avec ACT Commodities sur Radio Immo et Radio Territoria.